La Terre est toujours aussi belle, toujours aussi intéressante.
C'est un peu aux enfants d'éduquer les parents.
Une croissance exponentielle dans un infini ne peut pas durer éternellement.
The environment is degraded when there is no firewood, when there is no water, when there is no food. It's usually the women who feed it first.
Bonjour et bienvenue sur OGM, le podcast d'écologique, l'assaut écolo de Sciences Po Bordeaux. Aujourd'hui, on vous présente les grands événements liés à l'environnement de l'année 2020.
Si dire que l'année 2020 a vu triompher l'écologie sur le plan politique serait très optimiste, il faut tout de même soulever que le second tour des municipales a été un événement particulièrement fort pour le Parti Vert. En effet, le 28 juin, la vague Europe Écologie Les Verts a déferlé sur la France. Si les écolos prennent la tête de grandes et moyennes villes telles que Lyon, Strasbourg, Poitiers, Tours, Annecy, Grenoble ou encore Bordeaux, ils ont fait trembler des terres prétendument bien gardées, comme à Lille, face à Marcine Aubry, mais ont également pu participer à la victoire de Paris et de Marseille. Pour beaucoup, ces victoires constituent une nouvelle donne pour le visage politique français. Elles pourraient ainsi redonner un peu de vivacité à la gauche qui avait souffert depuis le mandat de François Hollande. Elles symbolisent également quelque chose de plus profond. En effet, elles semblent vouloir donner corps aux appréhensions des Français vis-à-vis des problématiques environnementales. Cependant, il faut également admettre que ces résultats ont pu être biaisés par la très faible participation que ce scrutin a occasionné. 2021 est alors une opportunité pour le Parti écologiste, à lui de faire ses preuves au niveau local pour que ses succès se perpétuent.
L'année 2020 a également été marquée par la publication du rapport de la Convention citoyenne pour le climat. Pour rappel, cette dernière a été constituée en octobre 2019 et est composée de 150 citoyens et citoyennes tirés au sort qui forment un échantillon représentatif de la population française. Leur objectif a été de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, et cela dans un esprit de justice sociale. Il a été annoncé dès le début que ces propositions législatives seraient par la suite soumises sans filtre, soit à référendum, soit au vote du Parlement, soit à application réglementaire directe. Les questions traitées par la Convention touchent quatre thématiques en particulier. La rénovation énergétique des bâtiments, l'agriculture, les mobilités et la fiscalité écologique. Mais tout autre levier d'action que la Convention jugerait pertinent peut également y être intégré. C'est cet été, en juillet 2020, que la Convention citoyenne pour le climat a publié son rapport avec 149 propositions classées dans 5 catégories. Se déplacer, consommer, se loger, produire et travailler, et se nourrir. Sur les 149 propositions, 145 ont été retenues par l'exécutif et 40% d'entre elles devraient être discutées au Parlement. Pour clore l'année 2020 concernant la Convention citoyenne pour le climat, le 14 décembre, Emmanuel Macron a rencontré pendant plusieurs heures 130 des 150 participants et participantes. Cette rencontre a notamment été marquée par la promesse du président de la République d'intégrer la lutte pour le climat dans l'article 1er de la Constitution, une décision qui doit être soumise à un référendum. Cette proposition est d'autant plus marquante que la Convention citoyenne pour le climat avait proposé d'inscrire l'environnement dans le préambule de la Constitution, une proposition qui avait été rejetée. On attend maintenant en 2021 de voir l'évolution de cette proposition et également de voir comment va se faire la transposition législative et réglementaire des 149 propositions. Cette dernière doit se faire notamment dans le cadre du Conseil de défense écologique, du plan de relance économique suite à la crise de la Covid-19, dans le cadre de la loi de finances pour 2021 et le projet de loi dédié au climat.
En 2020, de nombreux feux et incendies ont fait rage aux quatre coins du monde tout au long de l'année. Alors, en quoi changement climatique est en cause pour tous ces feux? On sait que les incendies de forêt arrivent, surtout dans les zones les plus sèches. Mais le réchauffement climatique fait que ces périodes de sécheresse sont de plus en plus longues et les zones de plus en plus étendues. Par exemple, il a été démontré que les feux d'Australie étaient d'une telle intensité à cause du développement des nuages appelés pyrocumulonimbus, qui se créent au-dessus des incendies et dont la luminosité indirecte propage les feux. Et alors qu'en Australie, les feux sont souvent, surtout déclenchés par les éclairs, donc naturellement, En Amazonie, c'est différent. La déforestation de l'Amazonie est la plus grande cause d'incendie dans la forêt tropicale, parce que pour créer des champs agricoles, surtout pour le soja, il est plus simple de brûler les arbres plutôt que de les couper. Et c'est durant les périodes de sécheresse, entre juillet et septembre surtout, que les feux deviennent incontrôlables. Maintenant, montons en Sibérie, qui a connu les températures records à l'été 2020, et de nombreux incendies en raison de la sécheresse. Le risque de ces incendies dans la zone arctique est que les espaces de tourbières vont dégeler à cause des incendies. La fonte du permafrost est aussi une nouvelle réalité. Le permafrost est une sorte de glace permanente qui renferme, entre autres, des virus vieux de dizaines de milliers d'années, voire de millions d'années même, et qui sont donc libérés petit à petit alors que les tourbières fondent. Et pour finir, la Californie a connu une année record dans l'intensité des incendies qui l'ont touchée. Depuis les années 70, la saison des incendies a gagné plus de 80 jours en Californie. Et en 2020, pas moins de 1 800 000 hectares de forêt sont partis en fumée. C'était le double de 2018. Ces feux ont été d'autant plus impressionnants que les images de San Francisco plongées dans une pénombre orange ont fait le tour du monde début septembre. Et pourtant, le service européen Copernicus sur le changement climatique a montré que les émissions de CO2 liées à ces incendies en 2020 étaient inférieures aux années précédentes.
Cette année 2020 a été synonyme de nombreuses avancées pour le monde animal, avec par exemple l'interdiction en septembre de la chasse à la glu, sachant que la France était le dernier pays d'Europe à autoriser cette méthode de capture et qu'elle était par ailleurs interdite par la directive oiseaux de l'Union européenne. Le sujet fait l'objet de débats depuis de nombreuses années entre chasseurs et écologistes, avec d'un côté les associations de défense de l'environnement qui dénoncent une méthode non sélective et cruelle, tandis que les chasseurs défendent une méthode de chasse traditionnelle en Méditerranée. Souvenez-vous, toujours en septembre, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, avait annoncé une série de mesures en faveur du bien-être de la faune sauvage captive, en parlant d'une fin progressive en France de la présentation d'animaux sauvages dans les circuits itinérants, de l'élevage de visons d'Amérique pour leur fourrure, ainsi que de la reproduction dans les 3 delphinariums français. Ces mesures s'inscrivent dans la lignée de la campagne du journaliste Hugo Clément pour le référendum pour les animaux, qui a été soutenue actuellement par plus de 750 000 internautes et 141 parlementaires. On estime que pour organiser un référendum, il faudrait encore 4,7 millions de signataires et 185 parlementaires. Les 6 mesures principales proposées par ce référendum sont l'interdiction de l'élevage en cage et donc le développement de l'élevage en plein air, l'interdiction de spectacles avec des animaux sauvages, la fin de l'expérimentation animale s'il existe une alternative, la fin des chasses dites traditionnelles dont la chasse à la cour, la fin de l'élevage intensif, et enfin l'interdiction de l'élevage d'animaux pour leur fourrure. La consommation de viande dans le monde aurait également baissé de 3%, en cause principalement la crise économique et les mesures de confinement, avec les restaurants qui sont fermés et les ménages qui souhaitent réduire leurs factures au supermarché. Une autre explication serait également que le marché chinois, qui représente 40% de la consommation mondiale de porc par exemple, a été très affecté, avec les autorités chinoises qui ont notamment mis en garde les habitants sur l'hygiène dans les marchés, ce qui aurait découragé une bonne partie des consommateurs de viande.
Merci d'avoir écouté le récap de l'année 2020 sur la planète. Et toi, quelle info liée au climat t'a le plus marqué l'année dernière ?